votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
À 8h22, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Il est originaire d'ici, vous le savez, vous l'entendez dans l'émission de Patrick Lagacé. Salut Raphaël Jacob.
Salut Catherine.
Raphaël, on peut-tu replacer le contexte? Parce que bien sûr, il y a l'événement de lundi dernier, mais il y a aussi une pandémie qui dure depuis 3 mois. Parle-nous un peu de tout ça, là, de ce contexte-là.
Bien, il faut en parler. Je pense qu'il faut commencer par ça, parce que ça arrive pas dans un vase clos, toute cette nouvelle crise-là. Écoutez, on est dans une crise qui est dans une crise qui est dans une crise-là. Premièrement, toute la question du racisme de façon très, très large, de façon plus spécifique, les questions raciales entre les policiers et les communautés à majorité afro-américaine, ça fait longtemps, très longtemps, que ça broue. La hargne, la colère, le ressentiment, c'est là, on le sait, des incidents malheureux comme celui entourant la mort de George Floyd. On en a une quantité innombrable depuis un nombre d'années innombrables aux États-Unis. On avait déjà ça avant la pandémie. Ouais. Là, dans le contexte américain, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on parle du coronavirus, c'est pas simplement une question de mort aux États-Unis. Ce sont toutes les conséquences catastrophiques du confinement. Et il faut réaliser que ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas la même chose que ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de PCU de 2 000 $ pour tout le monde par mois depuis 3 mois. Il y a des gens qui font des files de kilomètres de long pour aller chercher de la nourriture. C'est comme ça depuis des mois dans plusieurs grosses villes américaines. C'est de la misère humaine à grande échelle. Il y a énormément de colère. On est rendu à 40 millions d'Américains sans emploi. Vous aviez tout ça, c'était une poudrière. Et en plus, évidemment, on avait aussi toutes les divisions sociales, économiques et politiques qui étaient extrêmement profondes. Donc, vous avez ce contexte-là. Et là arrive la tragédie, l'horreur de toute cette histoire George Floyd-là à Minneapolis. Évidemment qu'en bon français, ça allait péter. Et là, on voit ce que ça donne. Il n'y a pas vraiment de mots, en fait, pour décrire ce qu'on voit. On n'a pas tout à fait le même âge, Catherine, mais je pense que tu es assez proche en âge pour moi pour qu'on dise que tous les deux, on n'a rien vu de tel de nos vivants aux États-Unis.
Non, absolument. Tu fais bien de le mentionner. Dis-moi, comment tu analyses et tu qualifies le travail du président américain, là? Bon, on l'a entendu, on l'a surtout lu sur Twitter au tout début. Il est où actuellement, là? Je sais qu'il était dans le bunker un bout de temps en fin de semaine. Est-ce qu'on le voit un peu, Raphaël?
Où est le président? Y a-t-il un président des États-Unis présentement? Tu sais, avant même de parler de son travail, où est-il? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion présentement? On a un avion qui est littéralement en train de s'écraser en temps réel devant nos yeux. Je ne sais pas si tu as... Parce qu'il y a tellement d'images apocalyptiques qu'on voit depuis les derniers jours à la télévision. Je ne sais pas si tu as vu celle hier soir à Washington. Je veux dire, on était en train de brûler des monuments
absolument,
à quelques mètres de la Maison-Blanche, quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche. On n'a aucune espèce de nouvelle du président des États-Unis, sauf via, parfois de façon très sporadique, son compte Twitter. Et de façon également extrêmement remarquable, ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est que, évidemment, qu'on avait étudié, considéré à la Maison-Blanche la possibilité que le président prenne la parole pour adresser la nation, on aurait choisi de ne pas le faire parce que le président n'avait rien à dire. Le président des États-Unis n'avait rien de nouveau à dire ou à annoncer. Je ne sais pas vraiment quoi ajouter d'autre, sauf que on n'a jamais rien vu de tel, non seulement comme situation, mais comme réaction, ou plutôt non-réaction présidentielle. Puis, si je peux aller plus loin, je commence à entendre beaucoup sur les médias sociaux, dans les médias traditionnels aux États-Unis, des commentateurs qui disent que ça va servir à Donald Trump, tout ce qui se passe, ces émeutes-là. Puis, je ne sais pas ces gens-là sur quelle planète ils habitent. Mais la planète de 2016, dans laquelle ou sur laquelle Donald Trump s'est présenté comme le candidat de la loi et l'ordre, comme candidat qui allait restaurer le sentiment de sécurité, restaurer les relations entre les policiers et les différentes communautés aux États-Unis, ce n'est pas la planète de 2020. Donald Trump, présentement, est président des États-Unis. Le chaos, le bordel en bon français qu'on observe, c'est sous sa gouverne. Il n'a même pas d'intérêt pour son propre bien politique à ce que ça continue, ce chaos-là. Mais il semble y avoir une incapacité total présentement de gérer la situation. Est-ce que c'est seulement de son ressort? Non, c'est pas seulement de son ressort. Est-ce que c'est seulement de sa faute? Évidemment que non, ce n'est pas seulement de sa faute. Et il y a beaucoup, beaucoup des problèmes qui sont en train d'éclater qui datent de bien avant lui. En fait, dans certains cas, lorsqu'on parle de racisme, qui datent de avant sa naissance.
Absolument.
Mais il reste qu'il est quand même le président des États-Unis et il a la responsabilité ultime. Et encore une fois, où est-il présentement? Ça fait pas 2 heures, ça fait presque une semaine que ça dure.
Mais Raphaël, je prends la balle au bon là-dessus. Tu disais il n'est pas seul, mais tu sais, autour de lui, il y a des gens, je parle même pas de ses conseillers, là, mais il y a des gens avec l'expérience qui en ont, sans dire qu'ils ont pas connu des événements comme ceux-là, mais qui ont passé à travers des crises. Il y a des gens que leur travail, c'est ça au quotidien. C'est sûr que je comprends pas. Ils conseillent comment? Il me semble que c'est le temps de dire, là, M. Trump, c'est OK, allez-y, il faut sortir, il faut faire, voici le plan de match. Est-ce que tu penses qu'ils écoutent pas ou que c'est pas proposé?
Avec Donald Trump, c'est très difficile de savoir, ne serait-ce que parce que s'il y a une chose en fait qu'on sait, c'est qu'il n'écoute pas ou il écoute très, très peu ses conseillers. Ouais. C'est vrai depuis sa première campagne présidentielle, avant même qu'il ait été élu en 2015-2016, on le disait à quel point il était difficile, pour pas dire impossible à gérer. De ce qu'on en voit, ça semble, de ce qu'on en comprend, ça semble être le chaos, non seulement à l'extérieur de la Maison-Blanche, mais à l'intérieur de la Maison-Blanche. Donc, le processus décisionnel dans tout ça... Honnêtement, je suis aussi mal placé qu'à peu près n'importe qui d'autre présentement pour donner une idée de ce qui se passe. Ouais. C'est vraiment le chaos. Et si je peux ajouter, on se parle de l'entourage du président, de décisions qui sont difficiles à comprendre, ne serait-ce que d'un point de vue policier, de gestion d'émeutes et de crises comme celles qu'on voit. Ouais. Tu sais, je reviens sur les images d'hier à la Maison-Blanche. Une chose que je ne m'explique pas, je ne prétends pas avoir de réponse, sincèrement, je ne le comprends pas. Comment est-ce qu'on a même pu autoriser permettre aux gens faisant ce trouble-là, et on savait qu'il s'en venait, c'est évident, ça fait une semaine que ça dure, qu'on leur a permis de s'approcher autant de la Maison-Blanche, qu'on ait, par exemple, seulement imposé un couvre-feu à partir de 23 heures.
Ouais, c'est tard, il me semble. Ouais.
C'est une série de décisions que je ne comprends pas. C'est comme de l'amateurisme à grande échelle, et ce n'est pas seulement le président des États-Unis, c'est l'ensemble des institutions présentement, à la fois au niveau du gouvernement fédéral américain et des États, parce que, évidemment, ça a commencé au Minnesota, le gouverneur du Minnesota, le maire de Minneapolis ont géré ça tout croche en bonne partie depuis le début, donc ce n'est pas limité à un homme, c'est l'ensemble de plusieurs institutions majeures qui, présentement aux États-Unis, ne sont tout simplement pas au rendez-vous alors qu'on a besoin d'elle comme jamais auparavant. Là.
Absolument. Raphaël, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci d'avoir replacé le contexte pour nous, super pertinent. Merci Raphaël, à bientôt.
Bye-bye.
Bye-bye. Raphaël Jacob, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand. Donc, et je trouve ça intéressant qu'il le fasse. Donc oui, il faut replacer le contexte là parce que il s'en est passé des choses et même dans l'histoire américaine. On aurait pu faire une demi-heure avec Raphaël sans problème.